France Inter.
Ça, vous avez de la chance, hein. Et les petites poulettes, elles ont bien pondu. Hein.
Habiter sur une île, ça c'est le rêve. Hein.
CO2, mon amour.
Il y a le bon air, hein, ça là. Mais vous vivez comme ça toute l'année.
Je ne comprends pas l'énoncé de la question, là.
Bah, non, vous ne travaillez pas.
Ah, certainement pas, parce que le travail, pour moi, c'est la dégradation de l'homme libre.
Avec Denis Chessou.
Il enfin, faut bien un peu d'argent pour vivre, quand même.
Je suis pour l'abolition de l'argent.
Et le chauffage, l'électricité, il faut bien la payer.
Ben, je suis directement branché au poteau de l'EDF. Ça évite les factures. Et l'hiver, ben, je me chauffe au vin. Voilà.
Sur France Inter.
Et même l'été, d'ailleurs.
Oui, bah écoutez, chacun a ses méthodes. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Loïc Frapsos aujourd'hui à la technique. Notre collaboratrice, c'est Camille Blanès, et Xavier Pessugia réalise et colorise l'émission. Alors avant nos bossons, quoi, les récifs coralliens sont acidifiés, blanchissent et sont en train de crever. C'est moins de 1% des fonds marins. Ah, ils accueillent 25% des espèces de toute la vie marine. Ben vous pourriez pas parler quand même du PSG, du dernier iPhone ou d'Aya Nakamura comme tout le monde, hein ? Les humains, eux, auront du mal à sortir blanchis de tout cela. La Commission européenne détricote à donf le pacte vert, dérégule, bon ça c'est quasiment une seconde nature, affaiblit les protections sociales et environnementales, donc c'est idéal face aux multiplications des crises. La France n'est plus un rond, c'est pas nouveau, se relâche sur le climat, on va taillader les associations, un peu plus l'incompréhensible prime rénov et le fonds vert, ce qui va être très moyen pour l'adaptation des collectivités. Mais comme Trump est notre idole, sécheresse, incendie, inondation, tout ceci va s'arrêter, surtout si on découpe en rondelles les scientifiques et leurs travaux qui relèvent de l'arnaque. Bon, comme on ne parlera pas de cette information qui suit, je vais m'y coller. Allez, viens te tortiller dans cet édito, petit ver de terre, car le 21 octobre, ce sera ta journée mondiale. En France, à mon avis, ça va faire une brève. Le 8 juillet dernier, on tue par le vote sans débat le vivant à l'Assemblée nationale. Et le 7 août, le Conseil constitutionnel censure l'acétamipride et en ressuscite une partie. Parcours christique pour le lombric. Vive les contestations parce que cette pétition est une part de liberté lucide face à l'intoxication de cette duplombesque loi qui n'est qu'une faible partie de l'iceberg tellement on a chimisé les esprits. Mais ça a fait bouger les gens de toutes les conditions, milieux partout en France. C'est pas du tout cette pétition un truc d'écolo-bélan à l'origine. C'est une guerre chimique générale qu'il convient sinon de stopper, au moins d'enrayer d'urgence. La santé de nous tous est menacée, et pas que dans la plaine d'Aunis, derrière La Rochelle. Mettre un peu le bâton dans la roue du tracteur, même si on est à peu près sûr qu'il y sera broyé, faut quand même y aller. Christophe Gatineau a écrit un excellent éloge du ver de terre, puis éloge des abeilles. Il alerte sur l'absence d'évaluation de la toxicité des pesticides sur les vers de terre. La justice l'a confirmé, l'État les a oubliés, alors que ces animaux sont aux premières loges des épandages de pesticides. Vers de terre, nous parlons bien de la principale biomasse du sol scientifiquement documentée depuis 1842. Et d'où sort en fait cette plèbe arable et nourricière que nous éventrons sans vergogne ? Eh bien, de la décomposition millénaire des minéraux, matières organiques, champignons, mousse, feuilles, fabriqués, digérés, triturés, aérés par qui ? Les milliards de vers de terre et toute une microfaune ignorée. L'humus est précieux, il est à sauvegarder, à renouveler. On en est un peu loin, hein, parce que les bidons de chimie n'ont pas fini de s'accumuler tant et plus dans les silos des coopératives agricoles, où malgré tout on reste conseilleur et vendeur, bah oui. Gatineau a créé du Burk au waouh, mission vers de terre, avec le pôle enfant de la bibliothèque francophone de Limoges. Les enfants sauront tout sur le vers de terre, ce qui sera mieux que d'apprendre à arracher des haies, drainer les zones humides et agrandir sans trop de contraintes les élevages industriels. Alors, inutile de se tortiller pour filer droits et fiers, luttons encore contre les Waterloo morne pleine, laissons danser les vers de terre. puis quand même, pour vos enfants, bestioles, ça vous dit quelque chose. Le Lombric a été narré par Brigitte Lecordier et un certain Denis, France Trotteur. Voilà. Alors, France Trotteur, justement, on va partir en Haute-Savoie. Je vous emmène au glacier des Bossons, donc sur la commune de Chamonix, et il prend corps donc au Mont-Blanc. Mais demain, quel sera le visage de ce glacier, de nos glaciers? Eh bien, Ludovic Ravanel sera notre guide. Honest Man, choisi par Valentine Chez de Bois, c'était Freak Slug qui nous, en gros, nous dit qu'elle aime les vers de terre et qu'elle aimerait beaucoup aller sur le glacier des Bossons. C'est la traduction de la chanson, enfin ou presque. Donc on y va.
Ici, en haute montagne, on est vraiment aux avant-postes des effets du réchauffement climatique. On est aux premières loges. Non seulement la région alpine se réchauffe plus vite que la moyenne globale, presque deux fois plus vite, et en plus de ça, on a des milieux qui sont extrêmement sensibles, de par la présence de glaciers, de par la présence de permafrost, et on voit finalement les effets en direct, et c'est ce qui surprend les gens quand ils vont à la mer de glace. Ils prennent ça en pleine gueule, et ils prennent conscience que la crise climatique, c'est pas qu'une question de température, c'est pas que des degrés, ça a des effets, et là, on est tout simplement en train de vider le château d'eau de l'Europe. Le coin est assez surprenant parce qu'on a l'entrée du tunnel du Mont-Blanc à 200 mètres et pour autant on n'entend plus grand chose. Et là on est devant le panneau, le Cérot, le glacier des Bossons et le plateau des Pyramides. C'est un chouette programme.
Ça en jette, hein?
Ça en jette. Ouais. Alors on va pas aller jusqu'au plateau des Pyramides parce que les Pyramides, tout simplement, c'est les séracs, c'est des tours de glace de forme cubique qui peuvent parfois s'écrouler. Nous on va tenter de rejoindre le glacier des Bossons, le front du glacier des Bossons tel qu'il est aujourd'hui.
Haute-Savoie, terre riche de paysages superbes, vous avez le Chablais au nord, le Semnoz qui donne son eau à Annecy, les Aravis, la Colombière, les Glières, le fer à cheval, ne l'en jetez plus. Nous, on va remonter l'Arve, direction mondialement connue, Chamonix. Et là, je tiens à saluer aussi son maire, Éric Fournier, parce qu'il s'est quand même débrouillé dans son PLU pour stopper les terrains constructibles, donc ça n'a pas plu à tout le monde, pour les résidences secondaires. Donc uniquement pour les résidents permanents, et oui, le fameux ZAN, vous avez 14 000 biens immobiliers au total, 10 000 de résidences secondaires, voilà, et 4 000 donc permanents. Donc il s'est dit, il faut quand même stabiliser un peu cette affaire, ils ont même aussi diminué les remontées mécaniques. On va faire un petit pas de côté, on va aller à 2 km, on se retrouve au hameau des Bossons. De là sont partis Jacques Balma et le docteur Paccard pour leur ascension du Mont Blanc. Souvenez-vous, on y était, c'était en 1786, mais à cette époque, le glacier coulait quand même bas dans la vallée. Ludovic Ravanel, que vous avez entendu, il est issu d'une famille de guides et un jeune directeur de recherche au CNRS. Il est géomorphologue de 42 ans. Et cette discipline appartient donc à la géographie physique. C'est l'étude des reliefs et de leur transformation dans le temps, avec évidemment la composante du climat. Ah, je suis un fier glacier. On m'appelle les Bossons. Sûrement parce que je descendais dans la vallée où il y avait des buissons. Je suis un fier glacier donc qui prend racine au sommet du Mont Blanc et on se connaît bien depuis des millénaires. Nous sommes compagnons de route avec le toit de l'Europe. Mais ma route, justement, elle se raccourcit. Alors j'ai toujours eu des hauts et des bas liés aux phénomènes naturels de glaciation, de dégel. Mais là, petit bonshomme humain, vous avez fait fort en poussant le thermostat de vos envies sans fin. Pour me trouver, il faut monter presque à 1800 mètres. Une glace incertaine qui sue à perdre haleine. Alors là, je résiste comme je peux, hein, mais je vois bien que je perds mes os, beaucoup. Je laisse la place donc à un autre territoire. On va y aller voir avec Ludovic Ravanel.
Ça fait partie des massifs les plus englacés de France. Et celui-ci étant le plus haut, c'est là qu'on va trouver le glacier des Bossons, la mer de glace, le glacier d'Argentière, le glacier de Bionasset, tous les grands glaciers des Alpes françaises.
Et c'est donc cette fameuse géomorphologie qui vous a, vous, habité. Vous êtes dit, voilà, je suis quand même d'une lignée de guides, j'aurais pu faire ça. Vous êtes à la croisée à la fois du sportif, du montagnard, du scientifique et aussi du lanceur d'alerte.
Oui, j'adore la science, j'adore les connaissances. Mais c'est vrai que de pouvoir faire de la science dans ces milieux de haute montagne, ce qui nécessite de faire du sport, ce qui nécessite de faire de la randonnée, ce qui nécessite de faire de l'alpinisme, ça prend une dimension encore plus importante. J'ai la chance justement de pratiquer la montagne, l'escalade rocheuse, l'escalade glaciaire depuis très très longtemps, et ça me permet d'avoir des terrains que peu ont finalement.
Et notre chère mer de glace, qu'est-ce qu'on en dit ?
Cette mer de glace, elle est dans un état terrible. Toute la partie basse est aujourd'hui complètement couverte de cailloux, ce qui fait que les gens n'ont plus l'impression d'arriver devant un glacier. Et c'est un glacier qui, malgré sa couverture de cailloux, fond très rapidement. On a déjà perdu près de 6 mètres depuis le début de l'été.
Bon, ça veut dire qu'a priori, enfin, c'est condamné, sauf évidemment peut-être sur la partie supérieure ou...
Alors, c'est sûr que si on regarde l'évolution actuelle et qu'on se projette avec les projections en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on arrive à une situation à la fin du siècle où on n'a quasiment plus de glace dans les Alpes.
Ce qui veut dire qu'il faut une fois de plus que l'être humain soit à bord du Titanic pour se prendre un iceberg, pour commencer à se rendre compte qu'il faut changer de cap, quoi.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, ce qui me fait peur depuis quelques années, c'est qu'on a un retour d'un climato-scepticisme, d'un climato-négationnisme, disant, c'est des choses qui sont normales, qui sont cycliques, les glaciers se sont toujours retirés, etc. Ouais. Mais les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre qu'aujourd'hui on est à des rythmes qui sont totalement insensés, totalement anormaux.
La plupart des scientifiques expliquent que le changement climatique entraîne une plus grande sécheresse des sols sur la côte ouest et que cela accélère les gigantesques incendies. Mais hier, en Californie, voici comment ces experts se sont fait corriger par Donald Trump.
Vous voyez, ce réchauffement fait que nos étés, mais aussi nos hivers, sont plus chauds. Si on ignore la science, en faisant la politique de l'autruche et en disant que ce n'est qu'une question de gestion des forêts, on n'arrivera pas à protéger les Californiens.
Vous verrez, ça va se refroidir.
J'aimerais que la science soit d'accord avec vous.
Je ne pense pas que la science sache vraiment.
Ça doit être quand même dur quand on est scientifique de voir ça, parce qu'aujourd'hui, un fait scientifique égale une opinion, pratiquement.
On se dit des fois, à quoi bon essayer de prouver les choses, d'avoir une démarche scientifique, si c'est pour qu'ensuite elles soient discutées dans des réseaux sociaux, sans qu'il y ait de contre-pouvoir, de contre-argument. On n'invite même plus les scientifiques, on invite seulement des gens pour parler de choses qu'ils ne connaissent finalement pas. Et ça, on instille du doute. Et dès que le doute est instillé, et ce depuis maintenant longtemps, notre démarche, nous, de scientifiques, est de plus en plus difficile à poursuivre.
Alors là, on est quand même dans le beau. Alors là, on est sous l'œil du Mont Blanc que l'on ne voit pas, hein, parce qu'on est encore entre des feuillus et des résineux. Ouais, c'est assez bien réparti, là, encore, là-dessus.
On a de plus en plus de feuillus, parce que les résineux, malheureusement, ils ne sont pas à la fête. Normalement, une vallée comme celle de Chamonix, elle est encadrée par des versants, qui sont des versants plantés par des épicéas. Et le problème, c'est que ces épicéas ne sont plus adaptés aux conditions de température que l'on a aujourd'hui. Et on a le scolite, qui a fait son apparition il y a déjà un petit moment, mais qui se développe très largement.
Et qui va se glisser donc entre l'écorce, c'est-à-dire la peau de l'arbre, et qui va faire ses petits, ses œufs, dans des trous, ça va bloquer la sève de l'arbre.
Et ça les rend très faibles, ces arbres. Et bon, en montagne, on a souvent des périodes de tempête, etc. Et ça abat parfois des quantités d'arbres, et puis derrière, c'est plus des épicéas qui repoussent, c'est des feuillus, parce qu'effectivement, eux sont plus adaptés aux conditions de température qu'on a aujourd'hui.
Allez dedans, on a bien, hein, depuis qu'on cause, là.
Nous voilà au 0, 1358 mètres.
Ouais.
Oui, c'est pas encore énorme, mais on va continuer de monter.
ça ramène les poumons, hein? Oh, ça va vous faire un bien fou avec les saloperies que vous respirez toute l'année.
Et on est à combien, parce qu'on respire mal, hein?
3008 à peu près. Tu vois, c'est la station qui est en bas là-bas. C'est bas, hein?
Oh, papa, c'est ça le Mont Blanc?
Mais non, c'est le Mont Rose, là. Puis alors, tu vois, là, c'est la dent du Guignol. Là. Puis alors, la coulée du Grand Bronze, c'est derrière, là, mais on peut pas la voir.
Là, je me sens tout petit, hein. De toute façon, t'es pas bien grand, alors.
Ah. Hop là. On entend le torrent des Bossons. Donc c'est le torrent qui s'écoule depuis le front des glaciers. On avait trois torrents qui étaient alimentés par ce glacier. Un torrent qui est issu de la rive droite. Un torrent qui est issu plutôt de la partie centrale du glacier, la Creusette. Ouais. Le premier, c'est la Creuse. Et puis on en a un troisième, c'est le torrent des Bossons. Et ce torrent des Bossons, on l'entend beaucoup parce qu'il y a des changements tels au niveau du front du glacier ainsi que sous le glacier. Et toute l'eau qui auparavant allait dans la Creusette finit aujourd'hui dans le torrent des Bossons. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus bruyant qu'il ne l'était il y a encore 2 ans, à une époque où on avait un lac qui s'était formé en rive droite du glacier et qu'il a fallu même vidanger il y a 2 ans pour éviter qu'il ne se vidange brutalement et qu'il fasse éventuellement des dégâts au village des Bossons.
C'est vrai que ça, on va en avoir de plus en plus, des poches des lacs glaciaires qui peuvent menacer au-dessus des têtes de certains villages. Oui.
Ça fait partie de ce qu'on appelle les ROGP, les risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Et parmi ces risques, c'est vrai que ceux qui sont associés aux lacs sont de plus en plus prégnants, puisque avec le retrait des glaciers, on a de plus en plus de lacs. Certains ne posent pas de problème de sécurité du tout, mais d'autres peuvent en poser si le barrage est constitué uniquement de matériaux meubles, de la moraine, des éboulis, ou si le barrage est constitué de glace, on peut imaginer des ruptures brutales qui soient dommageables pour les vallées. Donc c'est des choses qui sont de plus en plus surveillées et on a de plus en plus de ces lacs qui sont vidangés.
C'est le Rhône qui ronronne et qui passe sous les ponts. C'est le Rhône qui ronronne et mousse comme un jupon.
Alors un peu plus bas, moi je m'appelle le Rhône et je constate que quand même déjà mon petit glacier du Suisse du côté de la Fourca, là aussi le front remonte sacrément, mais tout ce qui est ici, là, les Bossons, l'Argentière, et tout ça va arriver à un moment ou à un autre dans le Rhône.
Absolument, ici le glacier des Bossons alimente le torrent des Bossons qui alimente l'Arve dans la vallée de Chamonix, et l'Arve c'est le plus important tributaire du Rhône, en particulier l'été, puisque ces glaciers fournissent de l'eau quand on en a le plus besoin, en période de canicule, en période de sécheresse, et on a besoin de cette eau pour l'irrigation, on a besoin de cette eau pour l'alimentation en eau potable, on a besoin de cette eau pour produire de l'électricité, que ce soit de l'hydroélectricité ou le refroidissement des centrales nucléaires. Quand on est en période de canicule, le Rhône devient trop chaud, donc il faut arrêter des réacteurs. Et puis surtout, on a besoin de toute cette eau pour les espèces animales et végétales qui n'ont rien demandé.
Je vous remercie pour le bâton, parce que vous m'avez dit, est-ce que tu veux prendre une paire de bâtons? Je vais en prendre qu'un, parce que je le magnétophone dans l'autre main, mais c'est quand même utile. Alors, si on se retourne, on a quand même des aiguilles absolument de renom. Et là, vous avez vu, vous avez été parmi les premiers, donc évidemment, à documenter cela, de voir entre le pilier Bonatti, il y a déjà plus de 20 ans, qui s'est cassé la figure et qui a été réduit en cendres. Mais d'autres, c'est-à-dire que là, ça nous permet de parler de ce qu'on appelle le pergélisol en français, le permafrost en anglais, et qui est donc ce ciment de glace qui maintient donc des bouts de parois les unes entre les autres.
Au-delà de 2500-2800 mètres d'altitude, effectivement, les parois sont gelées en permanence. Ce gel permanent, c'est ce qu'on appelle le permafrost, c'est un état thermique, ça ne se voit pas. Par contre, ça permet effectivement la présence de glace dans les fissures qui va avoir un rôle de ciment. On parle de béton de glace, de ciment de glace. Et tout simplement, aujourd'hui, on fait fondre le ciment des montagnes de plus en plus profondément, expliquant à la fois l'augmentation de la fréquence des déstabilisations rocheuses, mais également une augmentation des volumes. Et le cas de Blatten au mois de mai rappelle justement que maintenant on peut avoir des événements de plusieurs millions de mètres cubes qui peuvent non seulement affecter les activités en montagne, c'est-à-dire l'alpinisme, c'est-à-dire les remontées mécaniques, mais on peut avoir aussi des problématiques jusque dans les vallées à travers souvent ce qu'on appelle des effets en cascade, c'est-à-dire la déstabilisation d'un glacier qui va ensuite produire une coulée boueuse ou une paroi rocheuse qui, comme à Blatten, va tomber sur un glacier, accélérer le glacier et produire ensuite une énorme avalanche de glace, de roches, de boue, qui puisse ensuite aller jusque dans le fond de la vallée et dévaster tout un village.
Soudain, le fracas, un immense nuage qui dévale la montagne. Des tonnes de pierres, de glace et de gravats. En Suisse, dans le canton de Valais, une partie du glacier du Birch vient de céder. Le pire des scénarios, selon les termes des autorités locales. Sous les yeux d'habitants, stupéfaits. Je conduisais et d'un seul coup, j'ai entendu un énorme bruit. Après, il y a eu beaucoup de fumée. Tout s'est effondré. Au pied du glacier du Birch, beaucoup des chalets du village de Blatten, 300 habitants, sont engloutis. Ce phénomène est-il lié au réchauffement climatique ? Trop tôt pour le déterminer. Les spécialistes notent sa violence exceptionnelle.
Là, on entend le Puyo Velos. Sinon, effectivement, là, on n'est pas encore très haut en altitude, donc on va avoir les chevreuils, on va avoir des cerfs. On a également des sangliers qu'on n'avait pas par le passé. Et pour tout ce qui est marmotte, bouquetin, chamois, il va falloir monter un petit peu plus haut en altitude.
J'ai vu qu'il y avait aussi des chamois qui sortaient davantage le soir et la nuit. Eux aussi se sont déplacés, quoi. Et ils vont se mettre à l'abri dans la journée quand il fait trop chaud.
C'est vrai que c'est des espèces qui peuvent passer plus ou moins inaperçues en journée et qu'on verra plutôt tôt le matin ou tard le soir. On a la chance dans la vallée de Chamonix d'avoir plusieurs réserves naturelles et notamment celle des aiguilles rouges qui occupe une grosse partie du massif qui est de l'autre côté de la vallée de Chamonix.
Ouais, là, c'est en face, là, c'est ça.
C'est en face.
Oui, parce que vous, en fait, votre microscope, vos éprouvettes, etc. et tout, donc ça se passe comment, en fait, vous allez ausculter, on va dire, un glacier ou bien de la roche, quoi.
Exactement, les parois rocheuses, les glaciers, on ne les met pas dans un laboratoire, donc c'est à nous, chercheurs, de sortir du laboratoire pour aller en montagne. Et typiquement, là, on est dans mon laboratoire. Moi, je suis chamoniard et mon laboratoire, il est au-dessus de la maison.
C'est génial.
Et nous voici au premier point de vue du Cerro, 1375 mètres. Et on ne voit rien du tout, on ne voit plus de glace. Et ce, depuis longtemps. Donc il a fallu construire un deuxième point de vue, depuis lequel on verra tout à l'heure, mais la vue sur la glace est inexistante. Et donc il y a maintenant un troisième point de vue qu'on va essayer de dépasser pour aller voir vraiment le glacier et peut-être même le toucher.
Mais c'est ce que nous allons faire, donc vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, non, plutôt du plaisir, donc avec Ludovic Ravanel, toujours dans les Bossons, on va arriver vers 1800 mètres, moi, après cette chanson.
On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement. Alors la nuit quand je dors, je pars avec Théodore. Dehors, 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 dehors. Marcher dans le désert. Marcher dans les pierres. Marcher des journées entières. Marcher dans le désert. Dormir dehors. Coucher sur le sable d'or. Les satellites et les météores. Dormir dehors. Petit gobelet d'aluminium, il faut un minimum. Si loin
En écoutant Souchon, je me disais, mais quelle chance j'ai eu d'avoir rencontré Théodore Monod au Muséum National d'Histoire Naturelle, donc plusieurs fois. Alors on retourne donc au Bosson, et là, on est accueilli aussi par quelques restes du Malabar Princesse, qui s'est un peu scratché dessus en 1950, donc il y a des restes qui remontent. En 1966, il y a eu un autre avion, mais là aussi le Bosson,
évidemment qu'il est moins généreux, puisque on arrive là vraiment sur le front de glace. Waouh! On l'a sous les yeux, ça y est, il est là notre Bosson.
On l'a sous les yeux, mais il est quand même bien haut. Il y a une quinzaine d'années, ça débordait par-dessus le verrou rocheux. Et maintenant, il y a encore une demi-heure, trois quarts d'heure de marche et d'escalade pour arriver au front du glacier, puisque il s'est quand même beaucoup, beaucoup retiré, même si, sur les dernières 10 années, le glacier a été remarquablement stable. En tout cas, la position du front a été relativement stable. Et ça, c'est même surprenant. Ce qui est surprenant également, c'est que de l'autre côté, ici, on a une petite langue qui donne sur le bassin de Tacona, donc le glacier d'à côté. Et cette langue, elle a avancé de 200 mètres dans le même temps. D'accord. Donc on a un front qui était stable, on a même un petit glacier qui a avancé, ce qui est assez surprenant dans le contexte de crise climatique actuelle. Et il semblerait qu'on ait des évolutions importantes dans la partie haute, et notamment du point de vue de la température, il existe deux types de glaciers. On a des glaciers froids. Ce qu'on appelle un glacier froid, c'est un glacier dont la température est largement négative, et à cette température, la glace, elle colle à la roche.
D'accord.
Contrairement à un glacier à 0 degré, qu'on appelle un glacier tempéré, qui lui glisse sur la roche. L'hypothèse que l'on propose, c'est qu'on a toute une partie haute du glacier, sous le Mont Blanc, qui est en train de se déstabiliser, produisant un transfert de masse du haut vers le bas, permettant au front du glacier d'être relativement stable pour un moment, voire même la petite langue d'avancée côté Tacona. Par contre, ça, c'était très transitoire, et aujourd'hui, on a une évolution qui est dramatique. Là, on a, tu vois, le trou énorme.
Voilà.
Et bien, ce trou, il a commencé à se former non pas l'hiver dernier, mais l'hiver d'avant. Il s'est développé un petit peu au cours de l'été l'année dernière, mais cette année, toute la partie située en dessous du trou s'est écroulée, et là, de jour en jour, ce trou, il est en train de se développer. Donc ça fait deux langues, il y a une langue ouest et une langue est, et ça, c'est vraiment, entre guillemets, le début de la fin pour toute cette partie. Tiens, regarde, sur la gauche, tu as un tout petit glacier.
Oui.
Ça, c'est il s'appelle le glacier rond. Mmh. Et au-dessus du glacier rond, tu as une grande plaque de glace grise.
Oui.
Ça, c'est une de mes spécialités. J'étudie les tabliers de glace. Et ces tabliers de glace.
Ça, c'est un tablier de glace.
Voilà, d'accord. C'est un tablier de glace qui renferme parmi les plus vieilles glaces des Alpes. On a déjà trouvé de la glace de 5000, 6000, 7000 ans. Et ces tabliers de glace, malheureusement, disparaissent extrêmement rapidement. Et en même temps, disparaissent les messages chimiques, les messages environnementaux du passé. Donc on a des archives qui disparaissent en même temps que le château d'eau est en train de se vider.
Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Ça nous raconte bien sûr le climat, mais quoi d'autre ?
Là, on a juste au-dessus de nous l'aiguille du Midi. Et quand on est au sommet de l'aiguille du Midi, on voit un triangle rocheux qui s'appelle le triangle du Tacul, sur la voie normale d'ascension du Mont Blanc quand on part depuis Chamonix. Et on a fait un forage d'un mètre de profondeur. En surface, on avait de la glace de 700 ans,
d'accord,
ce qui était déjà une surprise pour le monde de l'alpinisme. On ne pensait pas qu'on grimpait sur des glaces aussi anciennes. À 50 cm de profondeur, la glace avait déjà 2600 ans.
Mmh.
Et au fond, la glace avait 6250 ans. Cette glace, elle a complètement fondu pendant la canicule de 2022. Donc quand on dit perdre un héritage glaciologique, c'est pas rien, on a perdu les informations. Alors, heureusement, là, on avait déjà fait un carottage. Et on a par exemple pu montrer qu'au fond, avec mes collègues de l'IGE, on a de l'oxalate d'ammonium. Cet oxalate d'ammonium, c'est une espèce chimique qui est produite par la végétation. Ce qui veut dire qu'avant 6250 ans,
c'était
non
vert,
seulement
alors, ouais,
on n'avait pas de glace,
ouais,
mais en plus, on avait de la végétation.
Ouais.
Alors, ça peut être un argument climato-sceptique de premier choix, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant 6250 ans, pour arriver à ne plus avoir de glace, on a eu une période de réchauffement climatique naturel qui avait duré 900 ans. Et aujourd'hui, en 30 ans de réchauffement climatique artificiel, on arrive aux mêmes conséquences qu'après 900 ans de réchauffement climatique naturel.
Bon, je vais te suivre, parce que voilà. Là, on comprend bien qu'on est en train de grimper sur une moraine. Hein. Donc,
Exactement, et on va même quitter la moraine, puisque en amont, c'est beaucoup plus raide. Donc les sédiments, les cailloux ne sont pas restés sur la roche, sur le gneiss ici. Donc il va falloir maintenant utiliser un petit peu les mains.
Ah oui.
Ah ouais, on m'avait pas dit, moi, ça. Alors là, on est évidemment sur les espèces pionnières. Donc,
du boulot, du mélèze. Ils se contentent effectivement d'un sol très, très pauvre. Et ces espèces pionnières permettent de stabiliser le terrain. Notre tas de cailloux, il est maintenant bien stabilisé par les racines. Et plus on monte, moins il y en a, puisque le glacier était encore là il y a quelques années. Et bah, il va falloir grimper par là.
Allez. Bon, là, je vais couper le magnéto parce que je vais vous retrouver au sommet de la dalle. Hein. Là, il me faut mes deux mains.
Hein. Et il faut les deux mains, effectivement. Maintenant, ouais, c'est presque de l'escalade. Ouais. C'est de l'escalade peu difficile, mais c'est de l'escalade quand même. Jusqu'à être au sommet de cette éperon, de ce verrou glaciaire plutôt, ouais. Derrière lequel on avait un lac jusqu'à il y a 2 ans.
N'essayez surtout pas d'imiter les eaux.
Ah non, non, non. Si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème. On l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature. D'accord? Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche, quoi.
Hein?
Oui.
L'idéal, c'est de respirer par le nez, hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas.
Alors, on tient plus debout?
Oh, ça va. S'il a fermé un peu aussi, ça serait pas arrivé, hein.
Ça va, c'est pas grave.
Ouais, mais bon, c'est comme quand on t'explique comment faut faire pour respirer. Après, tu sais plus où t'en es. Moi, je suis un instinctif, hein. J'aime pas qu'on m'embrouille.
Oh, alors là, on est vraiment au pied. On a de la glace qui est vraiment pas loin. C'est-à-dire toutes ces marmites de neige, de glace qui est en train de fondre. C'est là qu'on se rend compte de la casse qu'il y a eu, quoi, en quelque sorte.
C'est un paysage complètement fou, avec des cavités, avec des volumes de glace écroulés, ouais. Tout ça dans du gris. C'est d'ailleurs un peu symptomatique de l'évolution du front des glaciers aujourd'hui, c'est de se couvrir complètement de dépôts. Et là, il faut se figurer les changements monumentaux en 2 ans. Là, il y a 2 ans, on avait la glace qui arrivait jusqu'ici.
Ah oui.
Maintenant, le front du glacier est 25 mètres plus bas. Et quand il était ici, il barrait les écoulements d'eau, si bien qu'on avait un lac qui s'était formé ici, en rive droite du glacier. Et ce lac commençait à poser des problèmes de sécurité, parce qu'il était envisagé qu'on ait eu soit une vidange par-dessus, ce qu'on appelle une surverse, soit une vidange sous le glacier. Et dans un cas comme dans l'autre, si le lac s'était vidangé très brutalement, avec tous les matériaux rocheux à disposition à l'aval, oui. Ça aurait pu faire ce qu'on appelle des laves torrentielles et faire des dégâts dans la vallée. Donc il y a un chenal qui a été fait à la surface du glacier, de manière à ce que le glacier se vidange tout doucement et de manière contrôlée. Alors qu'avant, les eaux, elles partaient de ce côté-là, direction la Crozette. Et maintenant, toutes les eaux, elles partent direction le torrent des Bossons.
On est dedans, là, ça...
Alors ça, c'est pas le glacier. Ça,
non, c'est pas le glacier,
ça, c'est l'orage. Swing.
Oui, parce qu'on entend aussi des blocs, hein, on a entendu de plusieurs. Là, qui.
Ah, c'est en permanence, hein, des blocs qui s'écroulent. Tombe. Ça fait déjà une quinzaine d'années que je voyais un croissant de sérac se développer. Je me disais que ça allait casser à cet endroit-là. Effectivement, ça n'a pas loupé. Ouais, là, on a un trou qui est absolument gigantesque. Là, il y a un mois, c'est retombé en dessous. C'est symptomatique de la déliquescence du front du glacier des Bossons. Et malheureusement, dans les 10 ans à venir, là, on va avoir des changements encore terribles.
Comment ce projet?
Dans des modélisations, hein. Nous c'est notre travail, c'est d'anticiper les choses. Et nos modélisations, on les base sur les modèles climatiques. Et s'il y a une seule chose qu'on puisse reprocher aux climatologues, c'est justement d'être souvent beaucoup trop optimiste. Et à chaque fois qu'on a un rapport du GIEC par exemple, eh ben, on voit que la situation se dégrade forcément et fortement. On était encore, il y a une dizaine d'années, à un scénario moyen 1,5 degré, on est passé à 2,5 degrés. Et puis là, on parle de 4 degrés, 4,5 degrés. Et quand on voit déjà les effets pour ne serait-ce que 2 degrés à Chamonix sur les glaciers, sur le permafrost, sur les parois, sur l'engrisement de la montagne, même nous, on a du mal à se projeter sur un monde à plus 4 degrés, ce qui veut dire plus 8 degrés à Chamonix. Une étude a été publiée récemment, entre 2000 et 2023, on a perdu à peu près 40% du volume des glaciers alpins. C'est phénoménal.
Est-ce que les gens font vraiment le lien entre leur vie et ces glaciers? Nous, on en a à peu près 410-420 en France, mais on sait qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui vont dépendre aussi des glaciers de l'Himalaya. Mais les gens le savent, hein, ou...
Les glaciers, on va dire que c'est un peu un déclencheur de conscience, dans le sens où, quand on habite en ville, le réchauffement climatique, c'est qu'une question de température, et on met la clim. Alors que quand les gens arrivent à Chamonix et qu'ils observent les effets directement de cette crise climatique, ils prennent souvent les choses en pleine figure.
Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça?
Ah ben ça c'est rien, ça arrive souvent cette saison. Ici on risque rien, on peut s'arrêter 5 minutes là.
Oh, tu parles, on risque rien?
T'es déjà venu là?
Bah oui, mais c'était l'été, tu comprends? Il y avait des vaches partout. Ça avait pas du tout la même gueule.
Mais essaye de te souvenir, la dernière fois que t'es venu, t'as pris à gauche ou à droite du Chico?
Eh ben justement! Je m'étais déjà trompé une fois!
Alors vous avez trouvé le chemin?
Oui, minute, on fait le point.
Tu mens, Jérôme, tu mens. Tu sais absolument pas où on est.
Fallait pas nous emmener là. On est dans la merde à cause de toi. Et qu'est-ce que tu trouves à faire? T'es juste bon à te la monter sur ton sort. T'as rien dans le bide. T'es bon à être l'arbre, c'est ta femme, c'est tout ce que t'es bon, pauvre con. On est dans la merde, Gigi, elle nous l'a dit, hein. On va tous crever là. On est dans la merde à cause de toi parce que t'es qu'un con. Et puis t'es cocu. Et t'en demandes.
Bon, qu'est-ce qu'on lui dit à ce glacier? Essaie de pas fondre trop vite, quoi.
On lui dit qu'on va remonter sa rive droite pour aller le voir de profil. Et puis après, on s'échappera sur sa vieille moraine droite par laquelle on va redescendre jusqu'au village des Bossons.
Ludovic Ravanel, que peut-on vous souhaiter?
Nous souhaiter d'avancer vite, parce qu'il y a une certaine urgence à mieux comprendre les processus qui opèrent en haute montagne, de manière à améliorer la gestion de la sécurité des bâtiments en montagne, des alpinistes, mais également des vallées, puisqu'on sait que maintenant, à travers éventuellement des effets en cascade, ce qui se passe tout là-haut peut avoir des répercussions dans les fonds de vallée.
Bon, à très bientôt. Au revoir, Ludovic.
Merci, Denis. Au plaisir.
Et bien sûr, donc, les jeunes guides qui sont nés avec le phénomène se questionnent. Ludovic Ravanel, vraiment formidable pédagogue. Alors demain, en fait, quels territoires vont apparaître et puis aussi quelle eau donc se partager. Je peux vous renvoyer une vidéo qui est sur le site de CO2 Mon Amour que nous avons tourné, une petite vidéo avec donc Ludovic Ravanel. Merci à Théo de Lobadère qui a mixé ce reportage, à Camille Blanès, à Xavier Pessugia qui a colorisé et qui a choisi donc tous les sons. La semaine prochaine, je vous emmène à Mustersol, où sommes-nous? Eh bien, nous sommes dans le Ried, nous sommes en Alsace, future capitale de la biodiversité. C'est très très intéressant, un exemple tout à fait positif. Je vous retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky. Et puis surtout, la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente fin de dimanche.